Il est souvent considéré comme le plus beau jour de la vie, pensé pour être inoubliable et unique. Le riz ou les faux pétales de rose, le blanc virginal ou la robe couleur crème, et ce cousin pénible qu'on ne voit plus et qui picole un peu, on l'invite ou pas ? Concurrencé par le Pax, plus souple, le mariage a moins la cote, mais il résiste, malgré la pandémie. Vous pouvez embrasser la mariée, mais dans le respect des gestes barrières, ça casse un peu l'ambiance. Et si on passe moins devant Monsieur le maire, encore moins à l'église, la cérémonie, qui était une formalité, devient aujourd'hui un événement, un rituel. Les liens restent sacrés, même pour celles et ceux qui ne sont pas croyants. Et tant pis, si les chiffres rappellent que pas loin d'un mariage sur deux se termine par un divorce, se passer la bague au doigt a-t-il encore un sens aujourd'hui ? C'est notre question.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Mais comme tous les jours, on ouvre l'émission en feuilletant le journal. Et c'est l'Obs aujourd'hui qu'on feuillette avec vous. Bonjour Grégoire Leménager.
Bonjour Thomas Chauvineau.
L'Obs qui fait sa couverture avec un titre qui nous concerne de très près aujourd'hui pour cette émission, puisque vous vous intéressez aux couples. Ces couples qui respirent ensemble, mais chacun sa vie.
Oui, c'est ça. Alors, c'est pas tant le mariage, qui est quand même une institution qui a pris un peu de plomb dans l'aile depuis quelques décennies, que le couple qui de manière étonnante, résiste. C'est-à-dire que vraiment le concept même de couple existe toujours, fait toujours fantasmer dans l'imaginaire, répond sans doute à un besoin anthropologique finalement, le besoin de vivre à deux. Mais il a évolué de manière avec beaucoup d'élasticité au fil des siècles. Et là, au fil de ces dernières décennies, on a eu l'impression, on a le sentiment, et on n'est pas les seuls, pas mal de sociologues se penchent aussi sur la question, que l'émancipation féminine, que le triomphe de l'individualisme aussi, font que le couple est de plus en plus considéré comme l'addition de deux jeux plutôt que comme un nous. Mmh. Et voilà, et on s'est penché là-dessus.
Avec cette idée de pouvoir former un couple sans être pourtant l'un sur l'autre, hein, vous avez rencontré de nombreux couples qui inventent des nouvelles formes de faire couple. Alors les uns en ne vivant ensemble que le week-end par exemple, les autres en se réservant énormément de soirées dans la semaine, qu'ils passent en célibataire. Donc cette idée de réinventer le couple finalement, lui trouver disons d'autres modèles.
Oui, alors on ne sait pas très bien combien de temps ça peut durer, tout ça, et sans doute que ça correspond aussi à des moments dans la vie, hein. Mais Anna Topalov et Elodie Lepage, là, qui ont fait un grand papier, donc elles font parler pas mal de gens qui expérimentent diverses formules. Et effectivement, il y a des couples qui font le choix de plus vivre sous le même toit. Mais qui se considèrent toujours comme un couple. Bon, il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça en expérimentant des formules qu'ils appellent des formules de polyamour. Il y a vraiment toutes sortes de cas de figure. Enfin, après, chacun se débrouille avec ça, mais globalement, ce sont des formules qui répondent à cette idée de vivre quand même soi-même, quoi, avec à l'arrière-plan l'idée que le couple est potentiellement aliénant, ce qui peut se discuter, hein, mais dans l'air du temps, on a vraiment le sentiment qu'il y a ça, quoi.
Et ce que vous racontez aussi, ce qu'on peut lire dans les pages de l'Obs, hein, c'est que le contrat de mariage d'antan qui était fixe a été remplacé par un contrat de couple qui, lui, est mouvant, qui change au fur et à mesure que le couple avance dans sa vie.
Oui, ben sans doute que c'est dans la nature même de l'évolution du sentiment amoureux aussi. Tout ce qui explique bien le dossier, en particulier le philosophe Pierre Zawi aussi, qui donne une interview qui est vraiment, vraiment très intéressante là-dessus, dit bien qu'au départ, il y a le fantasme de la fusion, et puis que l'horizon du couple, finalement, c'est la disparition progressive, enfin, de ce fantasme de fusion. Et donc, il s'agit de toujours renouveler ce contrat de vie commune en le faisant évoluer. Alors, ça passe par plein de choses. Il y a notamment un phénomène qui est assez en vogue chez les citadines relativement fortunées, disons, qui souffrent de vivre dans un appartement très étroit, parfois avec des enfants bruyants et un mari bordélique, et donc qui ont le fantasme, réalisé ou pas, d'investir leurs économies dans la question d'une chambre de bonne, d'une chambre à soi, comme disait Virginia Woolf, pour se retrouver avec elle-même, quoi.
Une fillonnière.
une fillonnière, voilà. Les garçons ont eu droit à des garçonnières pendant des siècles, là, les filles réclament la même chose. Et certaines trouvent un équilibre comme ça, qui permet, et ça me semble assez symptomatique de ce qu'on essaye de décrire, voilà.
Et ce que vous racontez dans l'édito que vous signez, d'ailleurs, Grégoire Leménager, mm-hmm. c'est que finalement, c'est un peu comme la démocratie, le couple. C'est, disons, le moins mauvais des systèmes.
Oui, enfin, c'est une blague, mais c'est vrai que y a pas mal de gens qui râlent. Enfin, il est de bon ton de, enfin, le couple, on l'a beaucoup idéalisé, on l'a aussi beaucoup diabolisé. Mmh. Il est de bon ton de râler contre son conjoint qui fait traîner ses chaussettes, qui nous empêche de faire ceci, qui nous empêche de faire cela. Il est assez commun aussi de parler de la crise de la quarantaine, des frustrations de toutes sortes que peut créer, qui peuvent accompagner la vie, une vie de couple. Mais à l'arrivée, force est de constater que ce truc bizarre là, qui consiste à s'engager, à vivre à deux, etc. Ça résiste, ça évolue dans le temps et finalement, je dis que c'est peut-être le pire système à l'exception de tous les autres. Quoi.
Eh bien, merci Grégoire Leménager. Ces couples qui respirent ensemble, mais chacun sa vie, ça fait la une de l'Obs cette semaine et c'est en kiosque à partir d'aujourd'hui, jeudi 12 août.
Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant.
Oui, mais c'est complètement l'esprit.
Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, et sobre et agréable. Aouh ! Qu'est-ce que vous voulez ?
Non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ.
La vieille, c'est ma mère. Hein.
Je vais voir toutes les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air.
Allez, il me fait peur, lui. Hein.
Petit medley du sens de la fête, le film d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Trois invités aujourd'hui pour se demander si le mariage a encore un sens. Hein, c'est la question du débat de midi. Sybille Golac, qui est chercheuse en sociologie au CNRS et co-autrice de l'ouvrage Le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités. C'était paru l'an dernier aux éditions de La Découverte. Jérémy Houssier, qui est professeur de droit à l'université Reims-Champagne. Et puis Florence Maillochon, qui est sociologue avec nous en studio à Paris. Bonjour à tous les trois. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ce matin sur France Inter, le reportage de Delphine Evenou, c'est l'histoire de Marcel et Berthe qui vont bientôt fêter leur 83 ans de mariage. Ils se sont mariés sous la Troisième République en 1938, c'était Albert Lebrun qui était le président à l'époque. Alors ils sont centenaires tous les deux. Hein. Et Berthe se souvient encore du moment où elle a vu Marcel pour la première fois, il dansait au bal avec une autre, ce qui n'a pas empêché qu'ils se marient quelques temps plus tard. 83 ans, ils ont fêté leurs noces de Grenat l'an dernier. On l'a vu pas mal dans les médias aussi. L'info tourne hein, dans les médias. Preuve peut-être que ces mariages qui durent nous fascinent, Florence Maillochon.
C'est sûr que les mariages qui durent fascinent, ils sont de moins en moins nombreux, donc forcément tout ce qui est rare est d'autant plus précieux.
Oui, 83 ans, c'est un record,
c'est un record
de France.
C'est un record, évidemment, hein. Qui ne pourra plus être atteint désormais, puisque les gens se marient de plus en plus tard, en fait, quand ils se marient, évidemment. Donc effectivement, c'est cette image du durable, dans une époque où tout est éphémère, peut-être qui retient encore un peu l'attention des gens qui se marient.
Et ce qu'il raconte d'ailleurs très bien, c'est que la cérémonie était toute simple. Ils sont allés au restaurant, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, ils ont vidé le compte épargne pour pouvoir faire ce mariage. Et puis voilà, c'était une formalité, quoi.
Oui, c'est
par le 1938,
une formalité hein. Avec déjà de l'amour, évidemment. Mais en effet, le mariage a complètement changé de place par rapport au couple. C'est-à-dire qu'à l'époque où ces personnes se sont mariées, il est absolument nécessaire de se marier pour pouvoir vivre en couple, pour pouvoir habiter ensemble. À l'heure actuelle, bien sûr, tous les gens qui se marient à l'heure actuelle ont déjà cohabité. Donc, c'est plus un passage obligatoire, c'est plus un début nécessaire. C'est une évolution possible parmi d'autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt symbolique en ce moment et qui tire sa force du fait qu'il n'est pas obligatoire, justement.
Sybille Golac, sur cette histoire de Marcel et Berthe.
Oui, comme le disait Florence Maillochon, hein, ce qui est fascinant, c'est la rareté. Ce qui est intéressant aussi dans ce type de couple, c'est que ils ont connu des réalités différentes du mariage, en fait. au moment où ils sont mariés, ben quand une femme se mariait, elle renonçait en partie à son pouvoir, notamment sur ses biens. Elle était sous l'autorité de son mari. Et il me semble que c'est justement en 38 que l'article du Code civil, qui datait de 1804, qui disait que la femme devait obéissance à son mari, a été supprimé. Mais il y a beaucoup d'autres modalités de dépendance des femmes à l'égard de leurs, des femmes mariées à l'égard de leurs époux qui se sont maintenues. Et donc, à l'époque, hein, ce mariage, c'était pour les femmes accepter d'être dans une position subordonnée, dominée par rapport à son mari, hein, de pas avoir le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari, d'accepter un emploi sans l'autorisation de son mari, etc. Et puis, alors qu'aujourd'hui, hein, formellement, dans le droit, les droits des époux et des épouses sont égaux. Donc, c'est aussi un statut de femme mariée, d'homme marié qui a évolué, hein, tout au long de ces 83 ans de mariage.
Égaux, mais on aura le temps d'en parler, hein, tout au long de l'émission, ce qui ne signifie pas non plus qu'il ne reste pas des inégalités. C'est justement sur ces questions des inégalités que vous avez travaillé, Sybille Golac. Avec nous, Jérémy Houssier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit, donc je le disais, à l'université Reims-Champagne. Vous nous avez dit, quand on a préparé l'émission, que le mariage, quand on n'est pas religieux, ne présente pas d'autre intérêt que ses aspects fiscaux. Ça manque un peu de romantisme quand même, Jérémy Houssier.
Alors oui, tout à fait. Ce qu'il faut voir par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que l'évolution du mariage et du Pax, surtout qui a été créé en 1999, a amené à la situation suivante qui veut qu'aujourd'hui il n'existe pas de très grands intérêts à se marier, autres que les aspects, alors pas seulement fiscaux, mais aussi patrimoniaux, puisque l'avantage qu'on peut trouver d'un point de vue juridique, hein, au mariage par rapport au Pax, c'est effectivement soit en cas de séparation, puisqu'on pourra, l'époux le moins riche pourra avoir une prestation compensatoire, ou en cas de décès, puisque l'époux survivant pourra hériter de son conjoint prédécédé. Mais au-delà de ces différences, il n'existe plus véritablement d'intérêt juridique à se marier, puisque le Pax n'a eu de cesse de se rapprocher du mariage, et inversement le mariage de se rapprocher du Pax, ce qui fait qu'on peut se poser la question d'ailleurs de l'intérêt de conserver aujourd'hui ces deux formes de conjugalité.
La succession, c'est quand même important, et ça fait une grosse différence.
Alors oui, ça fait une différence. Alors attention, lorsque l'on est concubin ou partenaire, l'on peut hériter. La différence qui va exister, c'est que lorsque l'on est concubin, on devra payer 60% d'impôts. Donc vous recevez 100 de votre concubin prédécédé, vous paierez 60 à l'État, vous garderez 40. C'est un peu gênant. Si vous êtes partenaire, vous pourrez tout conserver, mais encore faudra-t-il un testament. Et la différence vis-à-vis du mariage, et là on voit l'intérêt du mariage, c'est qu'en cas de décès d'époux marié, il n'y a pas besoin de faire de testament, on peut en faire un, mais l'époux survivant, lui, héritera directement. Donc on voit ici un intérêt du mariage d'un point de vue juridique, et d'ailleurs, en préparant aussi l'émission, j'ai consulté un questionnaire de l'IFOP, une enquête, et il s'avère que la troisième motivation des personnes à se marier est effectivement de bénéficier d'une protection financière et d'avantages fiscaux.
Bon, et quelles sont les deux premières? Alors, parlez-nous d'amour quand même.
C'était renforcer la stabilité du couple, donc vous avez raison, l'amour, et la deuxième, réunir les personnes que l'on aime, et ça rejoint ce que vous avez dit en introduction de cette émission.
Florence Maillochon, c'est pas qu'une histoire d'argent, rassurez-nous.
quand on interroge les gens directement, en fait, les personnes que j'ai rencontrées, la première motivation.
Cette question, vous avez rencontré à la fois des couples mariés, jeunes mariés ou des couples qui allaient se marier.
Et leur motivation, c'est de faire la fête. Les grands absents, c'est l'amour. Ils ne parlent jamais d'amour, mais parce que c'est tellement évident qu'ils n'ont pas besoin d'en parler, je pense. Et puis l'autre grand tabou, c'est l'intérêt économique. Donc c'est pas quelque chose qu'on énonce face à une sociologue, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. L'intérêt, d'ailleurs, Jérémy aussi l'a rappelé. Mais bon, finalement, toutes ces motivations, ce sont des justifications qui expliquent pourquoi on a fait ça plutôt que pas. Mais toutes ces motivations pourraient être énoncées, et le sont aussi d'ailleurs par les personnes qui choisissent de ne pas se marier. Donc c'est toujours difficile de savoir pourquoi les gens font ceci ou cela.
C'est-à-dire qu'on peut utiliser les mêmes arguments
absolument,
pour se marier et ne pas se marier.
Absolument, c'est-à-dire parce qu'on s'aime, donc on ne va pas se marier, on n'a pas besoin d'un bout de papier.
J'ai l'honneur de ne pas te
pour
demander
pour faire une fête,
ta
on
n'a
heureusement pas encore besoin de se marier non plus. Enfin, c'est-à-dire que toutes ces justifications peuvent justifier aussi le non-mariage. Donc une des astuces que les sociologues utilisent pour comprendre un peu les raisons des gens, au-delà de celles dont ils ont conscience, c'est de voir aussi qui se marie. Et En effet, il y a quand même une sociologie assez différente des gens qui se marient et des gens qui se paxent, avec des différences surtout en termes patrimoniaux et en termes de position sociale. Donc, ce sont en général les gens qui ont des intérêts, en effet, économiques de se marier, qui le font. Et on le voit aussi parce qu'il y a une très nette augmentation du nombre de contrats de mariage, en fait, depuis une vingtaine d'années. Donc, on voit bien que c'est un intérêt économique au-delà de l'amour, bien sûr, qui existe. Et puis, ce sont des personnes qui sont aussi dans un environnement, enfin, qui ont des valeurs un peu plus traditionnelles, les gens qui se marient, qui sont souvent un peu plus religieux, qui ont aussi une conception du couple et des rôles sociaux de la femme et de l'homme un peu plus différenciés.
Sybille Golac.
Oui, alors pour préciser là ce qui vient d'être dit, ce qu'on constate, moi j'ai fait partie d'une équipe de recherche qui a enquêté dans les tribunaux, donc notamment sur les audiences de divorce et puis auprès d'avocats. Et ce qu'on constate, c'est que souvent les gens mariés ou non mariés n'ont en réalité qu'une idée très très vague des enjeux du statut légal en fait de leur union. Ils sont parfois très étonnés que, étant mariés, ils soient censés se partager leur patrimoine à part égale au moment où ils divorcent, par exemple. Et inversement, des personnes qui se séparent sans avoir été mariées sont étonnées de ne pas avoir le droit à par exemple, une prestation compensatoire. Hein, une femme qui a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants dans le système français, elle a le droit à une pension alimentaire tant qu'elle a la charge effective des enfants. Mais si les enfants ne sont plus à charge, elle a le droit à rien. Bon. Et donc, on voit bien que les gens, finalement, le fait qu'ils se marient ou qu'ils se marient pas, est pas tellement lié, à leur intérêt objectif, parce qu'en réalité ils ont une connaissance du droit assez mauvaise, et je dirais même que même ceux qui font des contrats de mariage ont pas entièrement conscience, ou en tout cas pas une conscience égale des enjeux de ces contrats. Notamment les contrats en séparation de biens, ils sont souvent présentés soit pour préserver par exemple le patrimoine du couple, si le mari est chef d'entreprise. Bon, ben dire, bah, si l'entreprise fait faillite, que ça pèse pas sur le patrimoine du couple. Donc, par exemple, on va dire, bah, on va mettre la maison au nom de la femme, l'entreprise au nom de l'homme. Bon. Et l'autre raison, hein, qui est avancée, c'est, bah, voilà, aujourd'hui, certes, on se marie parce qu'on s'aime, on peut avoir des raisons religieuses, effectivement, l'envie de faire la fête, de réunir, donc ça, Florence Maillochon le racontera beaucoup mieux que moi, c'est l'ensemble, enfin, un certain réseau, de proches, mais on dit bah voilà, chacun doit être autonome dans le couple. Or, là où ce contrat de mariage il a un intérêt qui est asymétrique, c'est que en réalité, comme souvent dans le couple, les femmes vont davantage assumer le travail domestique gratuit et donc faire des sacrifices au niveau de leur carrière, eh bien le mariage sous le régime de la séparation de biens va les désavantager au moment du divorce. Donc elles auraient pas intérêt, elles, à le faire. En plus, c'est un contrat de mariage qu'on observe donc davantage chez les plus riches, mais en plus dans les couples les plus inégalitaires. Donc voilà, donc en fait cette question de l'intérêt économique, elle est vraiment compliquée, parce que souvent les gens en fait ne savent pas très bien quelles sont les conséquences juridiques de cet événement, ou du fait de voilà de ne pas se demander leur main, et puis aussi parce que ben les intérêts sont pas toujours des intérêts communs dans les couples de sexes différents.
Sur franceinter.fr, Marie-Claude nous dit bonjour. Plus que du mariage, qui n'est jamais qu'un acte administratif, il faut parler de vie commune. Se marier, c'est facile, mais vivre à deux, c'est plus compliqué. Et puis Gilles nous dit, si je ne m'étais jamais mariée, je n'aurais jamais su que je n'étais pas fait pour le mariage. Et enfin Hélène, j'ai organisé un mariage surprise il y a 11 ans pour tous nos amis et familles. Ce fut surtout l'occasion de faire une grande fête pour célébrer notre grand amour. 11 ans plus tard, nous avons renouvelé nos vœux samedi dernier avec notre ami le maire et de nouveau nos amis et témoins tous vaccinés. Et c'était encore plus fort que la première fois, Florence Maillochon.
Oui, je pense que la première intervention explique justement ce que j'ai ressenti en interrogeant des personnes, c'est-à-dire qu'elles répondent sur la cérémonie de mariage, sur la fête de mariage. Elles ne répondent pas sur le statut marié, et effectivement c'est lié au fait qu'en français, finalement, mariage désigne beaucoup de choses, désigne l'institution juridique, désigne la vie en couple, et puis désigne aussi cette fête avec un rituel plus ou moins développé.
Il faudrait inventer d'autres mots.
Voilà, dans d'autres langues, il y a des mots différents.
Se marier a-t-il encore un sens? On attend toujours vos questions, vos réactions, vos demandes, vos souvenirs de mariage sur franceinter.fr. Dans quelques instants, justement, on sera au téléphone avec Aude, une jeune mariée. Et ce sera juste après une histoire d'amour.
Tu sais ce qu'on dit, y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours, moi je te cherchais comme une excuse. Médicaments sans ordonnance, évidemment t'es l'évidence. Téléguidé par tes pouvoirs, auprès de toi chaque jour est victoire. Je veux m'endormir à tes échos, éternité cœur en dépôt. Terrain miné sera notre histoire, oh, terminé de tout et pour une fois. Kitoko na yo lokola, sanza na minzoto likolo. Yonde moteme pona ho, yonde na linga. Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, 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 histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, oh, oh. J'ai trébuché, je suis tombé. Tu m'as touché, j'ai succombé. Obsolescence déprogrammée, je t'aime à la perpétuité. Même si le monde est contre nous, je serai fort prêt contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue. On se dira oui comme autrefois. Elles poucavent les étoiles entre elles. On balançait ce que je voulais te dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire. Nako kovanda kinyate, mokili ebongi yeba. Bolingo yanga na yo, sukaseliwa. Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, 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 histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, oh, oh. Alléluia, Ave Maria, fameux jardin Mamanaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanille. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie. Oh, c'est les lois loin d'Haïti. Alléluia, Ave Maria, fameux jardin Mamanaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanille. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie. Oh, c'est l'eau à loin d'Haïti.
Histoire d'amour, une chanson signée Gaël Faye, il est midi 27.
Le débat de midi, à retrouver pendant tout l'été à midi sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr.
Et trois invités aujourd'hui pour se poser cette question. Le mariage a-t-il encore un sens? Sybille Golac, qui est chercheuse au CNRS. Florence Maillochon, sociologue, autrice de La passion du mariage, c'est aux éditions PUF. Et Jérémy Houssier, qui est professeur de droit à l'université Reims-Champagne-Ardennes. Et puis ces messages qui continuent de nous arriver. Catherine nous raconte son histoire, bonjour. 26 ans de mariage aujourd'hui, la famille de mon mari est kabyle. Je tenais à passer à l'église. Nous avons opté pour une bénédiction des anneaux. Mes bons parents n'ont pas partagé ce moment du fait de leur religion. Mon mari est agnostique, je suis catholique pratiquante. Nous avons opté pour un repas qui réunirait les deux communautés. Nous avons fait un michoui et ma belle-mère a préparé un couscous. Mes parents avaient fait des pâtés et des galantines de volaille. Nous étions 180. Aujourd'hui encore, on me reparle du mariage et de ce couscous de ma belle-mère. C'est vrai que dans les études, les mariés que vous avez pu rencontrer, Florence Maillochon, il y a cette idée de fête où les gens sont de plus en plus nombreux. On était
enfin ils étaient 70, 80 dans les années 70-80 justement. Aujourd'hui, on est régulièrement au-delà des 100 invités.
Oui, c'est ce que montre une enquête qui a été réalisée à l'INED sur un échantillon représentatif. Donc on assiste vraiment à une augmentation, peu de mariages, mais les mariages qui survivent sont de plus en plus nombreux et rassemblent de plus en plus de personnes. Et c'est pas simplement le nombre moyen d'invités qui augmente, mais c'est aussi la part de mariages très importante. C'est-à-dire que dans les années 70, les 25%, le quart des fêtes les plus importantes comptait 100 convives et désormais c'est plutôt 150. Donc il y a vraiment une augmentation de l'assemblée présente qui est une fête très singulière parce que elle réunit toujours famille et amis. Et même si le nombre de mariages qui ne réunissent que des amis a augmenté, est passé en gros de 2 à 10% seulement dans les années 2015.
Il y a aussi ce souvenir très prégnant, je racontais tout à l'heure en début d'émission l'histoire de Marcel et Berthe qui se sont mariés donc il y a bientôt 83 ans, qui se souviennent encore bien de cette cérémonie, de ce qu'ils sont passés, du restaurant où ils ont été. Et là Catherine à l'instant qui s'est mariée il y a 26 ans mais qui se souvient bien de ses pâtés et de ce michoui, comment on peut l'expliquer ça?
Mais c'est quand même un événement très marquant. Alors je pense que pour le couple de 83 ans c'était le plus beau jour de leur vie peut-être au sens propre et figuré, c'est-à-dire au sens propre parce que c'est une belle fête et ça reste une belle fête, c'est tout est fait pour la fête et le décorum à l'heure actuelle, donc c'est au sens propre une très belle fête. Et puis je pense que ces couples des débuts du XXe siècle pouvaient encore l'interpréter en termes figurés, c'est-à-dire que enfin ils avaient l'occasion de vivre ensemble leur amour qui a duré si on en juge par leur durée, longévité.
Nous sommes aussi au téléphone avec Aude. Bonjour Aude.
Bonjour.
Vous vous êtes mariée le 24 juillet dernier. C'était comment?
C'est ça. Alors, j'ai eu l'impression, moi, que ça avait duré 2 heures, je pense, comme beaucoup de mariés, cette cérémonie. C'était dans le Cantal et je rebondis sur le nombre de convives dont vous parliez à l'instant, puisque effectivement, nous, on avait environ 100 invités et j'avais l'impression que c'était un petit mariage, en fait.
Pourquoi?
Parce que, comme vous le disiez, c'est de plus en plus des cérémonies avec beaucoup d'invités. On invite tous les proches, on invite des amis étendus. C'est vraiment des espèces de spectacles, de cérémonies vraiment très impressionnantes en général.
Pourquoi vous avez choisi le mariage?
Alors, l'impulsion vient en fait au départ plutôt de mon compagnon, donc de celui qui est aujourd'hui mon mari. On était ensemble depuis 11 ans et je pense que pour lui c'était une étape importante de sa vie. Moi, pour moi, le mariage a toujours eu une image plutôt aliénante. J'avais aussi autour de moi des exemples de couples qui n'étaient pas forcément une image positif pour moi, à savoir des personnes qui n'étaient pas forcément heureuses dans le mariage, mais qui, pour des raisons financières ou aussi tout simplement pour pas se confronter à l'échec, restaient ensemble. Donc j'avais un peu cette peur de l'engagement, de m'engager dans une situation dans laquelle je me sentirais par exemple oppressée et dont je pourrais pas sortir en fait. Mais on a commencé quand même à en parler avec mon compagnon à l'époque, fin 2020, et ça a forcément engagé pour moi une grande réflexion. Et au fil de cette réflexion, moi, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de donner un nouveau sens au mariage pour moi, en fait, de créer un sens, puisque un sens de toute pièce, en fait, qui serait celui de notre union, de ce qu'on souhaite en faire, de ce qu'on souhaite se promettre pour l'avenir.
Ce que vous nous avez expliqué en préparant l'émission, hein, c'était que ce mariage n'allait pas de soi parce que vous êtes féministe, vous vous sentez féministe, et donc vous vous posiez la question de la conciliation entre mariage et féminisme, comme si c'était deux courants contradictoires.
Oui, bien sûr, puisque je pense que j'avais cette image aussi que le mariage, enfin c'est une image plutôt conservatrice, mais le mariage donnait un statut aux femmes en fait, et que sans ce mariage-là, elles n'étaient pas forcément complètes. Donc il y avait cette idée, je pense, inconsciente derrière de ne pas vouloir adhérer à ces valeurs-là que représentait le mariage pour moi. Et il y a aussi la question de la vie de couple au quotidien en fait, puisque qu'est-ce que ça change dans les rapports, le mariage? Est-ce qu'à partir du moment où on est marié, on reprend des rôles plus traditionnels? Il y avait tout ce questionnement-là et je pense que c'est aussi ce qui me faisait peur dans cette notion.
Sybille Golac.
Oui, alors effectivement, le mariage historiquement, c'est une institution patriarcale. Si on reprend le Code civil de 1804, il y a cet article assez connu hein, qui dit « Les personnes privées de droit sont les enfants mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux ». Bon, On voit bien que le statut de femme mariée, il est associé à la fois à un passage à l'âge adulte, et effectivement, pendant longtemps, une femme non mariée pouvait être considérée comme voilà, ben, la vieille fille, la Catherinette, etc., comme socialement minorisée, mais la femme mariée aussi, elle, était une figure dominée. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que depuis les lois de 1965 et 1985, qui ont vraiment, à partir de 1985, on a vraiment une égalité des conjoints, quel que soit leur sexe, dans le mariage. Cette forme de domination inscrite dans le droit de l'époux sur l'épouse a juridiquement cessé, et les gens se sont de moins en moins mariés. Pour donner des repères, en 92, si on prend les couples de moins de 12 ans, donc les entre guillemets jeunes couples, il y en avait 69% qui étaient mariés et dont 10% en séparation de biens. Et en 2010, parmi ces jeunes couples, il y en avait plus que 44% qui étaient mariés, donc 15% en séparation de biens. Donc notamment, ce qui se passe et ce qui est un peu contradictoire justement avec ce qu'on pourrait considérer comme un objectif féministe. C'est que, alors même que les positions de la conjointe et du conjoint dans le couple, notamment d'un point de vue économique, sont devenues formellement égales, eh bien les gens se marient moins ou davantage sous le régime de la communauté de biens. Sous le régime de la séparation de biens. Or, le régime par défaut qui prévoit en France, qui est celui de la communauté de biens, il a pour avantage d'égaliser en fait les patrimoines entre femmes et hommes. C'est-à-dire que dans les couples aujourd'hui, qu'ils soient mariés ou pas mariés, on continue à observer, ça c'est une constante et ça n'a pas ça n'a à voir que de loin avec manifestement avec l'institution matrimoniale, c'est un partage inégalitaire du travail. Si on prend les couples avec enfants, et on regarde ce que nous disent les chiffres de l'enquête emploi du temps de l'INSEE, si on additionne le temps de travail rémunéré et le temps de travail domestique gratuit, les hommes y travaillent en moyenne 51 heures par semaine, les femmes 54 heures, donc elles travaillent un peu plus. Mais les deux tiers de ce temps, c'est du travail domestique gratuit. Et dans les couples de sexe différents, les inégalités de revenus entre femmes et hommes, elles sont de 45%. C'est-à-dire on est très au-dessus de l'inégalité moyenne de salaire entre hommes et femmes qui est de 25%, et encore plus au-dessus des inégalités de revenus entre femmes et hommes célibataires qui est de seulement 9%. Donc il y a une inégalité de revenus dans les couples de sexes différents qui a à voir avec cette division sexuée du travail. Et le régime de la communauté de biens, en fait, il faisait que ces inégalités de revenus, elles se traduisaient pas ou faiblement en inégalité de patrimoine dans le couple. Mais je le répète, jusqu'en 85, ça allait de pair avec le fait que les femmes n'avaient pas de pouvoir en fait sur cet argent.
Alors ce sont aussi des inégalités qu'on retrouve dans la préparation même du mariage. Aude, quand vous avez préparé votre mariage, qui c'est qui a fait le plus de boulot?
Alors, au départ, on avait fait tout un espèce de planning pour se répartir les tâches, pour justement essayer de garder un équilibre dans la répartition. Mais pour être totalement honnête, je pense que tout ce qui concerne l'administratif, les petits détails, tout ça, c'est, je pense, plus moi qui m'en suis occupée.
C'est ce que vous avez constaté aussi, Florence Maillochon, dans vos études, c'est qu'en général, l'homme s'occupe du vin et éventuellement de l'automobile si jamais il y en a une. Je caricature, mais c'est un peu ce que vous expliquez. Et puis, tout le reste, c'est pour la femme.
Oui, j'avais envie presque de demander à Aude, si je peux me permettre, qui a fait le planning. Je pense que c'est vous. Parce que les hommes ont la tendance, en fait, pour l'organisation du mariage, à dire qu'ils vont participer. Tout est dit quand on dit qu'on participe, c'est-à-dire que si on participe, c'est pas qu'on partage en part égale, c'est qu'on donne un coup de main. Et effectivement, c'est très difficile à évaluer parce que dans la préparation du mariage, comme dans tout le travail domestique, bon alors là c'est un peu singulier parce que c'est un événement exceptionnel qui n'arrive qu'une fois, mais il y a tout un travail d'organisation, de planification d'événements très compliqué qui se paye normalement. Maintenant, on a même inventé un travail qui s'appelle les wedding planners et croyez-moi, c'est c'est 10% de la somme du mariage, donc c'est un vrai travail et ça coûte très cher. Mais ce sont en fait les femmes qui continuent à le faire dans la majorité des cas quand elles n'ont pas accès à un prestataire. Donc ce sont en général maintenant les épouses, enfin les futures épouses. Avant, elles pouvaient être relayées par le réseau de femmes, les mères, belles-mères, cousines, sœurs, etc. Ce qui se pratique un petit peu moins. Mais globalement, l'essentiel du travail, des tracas, des comparaisons, de tout ce sale boulot en fait qui prend beaucoup de temps et qui ne se voit pas est porté par les femmes.
C'est ce qui s'est passé chez vous, Aude ?
Je voudrais quand même souligner le fait que il y a aussi beaucoup de choses à penser qui naturellement sont peut-être pour moi plus du domaine, enfin pas du domaine, mais qui sont plus prises en charge par les femmes parce qu'elles ont aussi cette éducation de ah au fait est-ce qu'on a pensé à tel détail. C'est pas forcément une volonté de ne pas faire de la part des hommes dans l'organisation du mariage, mais aussi une habitude en fait, une habitude de la charge mentale pour les femmes qui va s'attarder sur beaucoup de détails, sur beaucoup de choses de l'organisation. Donc, en ce qui me concerne, dans mon cas, mon conjoint a été quand même actif, il a été présent, il s'est occupé de choses quand même. Hein, mais c'est vrai que pour tout ce qui va être détail, penser à relancer, naturellement, c'est plus moi qui m'en suis occupée parce que j'avais de toute façon plus l'habitude au départ.
Jérémy Houssier, vous êtes, je le rappelle, un professeur de droit à l'université Reims Champagne-Ardenne. On l'oublie souvent, mais il y a ce truc qui reste dans le code civil. C'est écrit dans le livre, hein, les époux se doivent fidélité. On a l'impression d'avoir quelque chose de très archaïque quand on dit ça et quand on entend ça, quand on entend soit le maire, soit le prêtre, si jamais c'est un mariage religieux, répéter cette phrase qui est dans le code civil.
Oui, tout à fait. Alors, le Code civil prévoit depuis 1804, donc depuis son adoption, le devoir pour les époux d'être fidèles l'un à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un certain paradoxe à propos de ce devoir, puisque son domaine s'est étendu, mais sa force, à l'inverse, s'est réduite. Je m'explique. On a d'abord imaginé le devoir de fidélité comme un devoir de fidélité dans son versant sexuel. C'est-à-dire, les époux ne doivent entretenir des relations sexuelles que l'un envers l'autre. Et petit à petit, la jurisprudence l'a étendu à d'autres formes de relations, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que les époux entretiennent de relations intimes et même amicales, si jamais elles étaient très poussées, avec des tiers. Par exemple, on trouve un arrêt un peu iconoclaste dans lequel une femme est condamnée pour avoir entretenu une relation particulièrement proche avec un évêque, mais sans aucune relation charnelle. Donc la fidélité, c'est les relations sexuelles, mais au-delà de ça, c'est une intimité particulièrement poussé avec un tiers qui pourrait être nuisible vis-à-vis du couple. Mais, comme je le disais, paradoxalement, il est vrai que depuis 1975, ce devoir de fidélité tend à décliner. Pourquoi ? Parce que jusqu'en 1975, c'était une faute pénale, hein, et qui d'ailleurs, pour rejoindre les discussions précédentes, était plus sévèrement sanctionné à l'égard de l'épouse que de l'époux. Et depuis 1975, donc, ce n'est plus une faute pénale, ce n'est plus ce qu'on appelait une cause péremptoire de divorce. Jusqu'en 1975, si jamais l'un des époux trompait l'autre, le juge était obligé de prononcer le divorce. Or, justement, depuis cette date, le juge a une marge de manœuvre. Et on observe que de plus en plus, il y a une réticence de la part des magistrats à prononcer de facto le divorce pour faute au tort exclusif d'un époux en cas d'adultère. Pourquoi ? Parce que les magistrats considèrent, puisqu'ils sont aussi les interprètes des évolutions sociales, que l'infidélité est un fait qui peut survenir dans la vie d'un couple et que cette infidélité peut parfois être excusée, parfois même justifiée. Ce qui est assez paradoxal malgré tout, parce que lorsque l'on approche les études relatives à la notion de la fidélité, on observe que 72% par exemple des 18-25 ans jugent la fidélité comme indispensable dans le couple. Alors vous me direz peut-être avec le temps cela s'étiole, mais il y a donc ce paradoxe entre une fidélité qui s'accroît dans son domaine mais qui se réduit dans sa portée, dans sa puissance.
Alors j'ai même lu un chiffre, enfin un sondage assez récent qui disait que 90% pour 90% des gens, c'était important, en effet, cette question de fidélité, mais que pour ces mêmes 90%, sur ces 90%, 40% avaient déjà été infidèles.
Oui, alors vous voyez, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les juges observent effectivement les évolutions sociales. Et cet accroissement d'une acceptation sociale de l'adultère explique cette réticence à sanctionner davantage les couples, plutôt l'un des époux qui aurait commis un adultère. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est intéressant de voir qu'un arrêt récent de la Cour de cassation du 16 décembre 2020 n'a pas sanctionné une société, je ne sais pas si je peux dire le nom à l'antenne, mais une société Internet qui faisait son fonds de commerce des relations adultères. C'est-à-dire que c'est une société qui met en relation des personnes mariées et qui souhaite entretenir une relation adultère. Et là, une association catholique avait porté la question en justice en demandant de mettre un terme à cette activité, en ce qu'elle porterait notamment atteinte au devoir de fidélité. Mmh. Et la Cour de cassation, en 2020, a dit non, cette société peut tout à fait proposer ce type de prestation, donc une mise en relation d'époux pour commettre un adultère. Elle peut d'ailleurs même en faire la publicité dans le métro ou sur les panneaux publicitaires dans la rue. Et cela montre effectivement l'acceptation sociale croissante, en tout cas l'acceptation aussi juridique croissante de l'adultère, bien qu'attention, le devoir de fidélité reste mentionné dans le Code civil et reste encore sanctionné aujourd'hui assez régulièrement comme une cause de divorce.
Sur l'appli de France Inter, Cathy nous dit bonjour, je me marie avec ma compagne dans 15 jours. C'est d'abord un mariage d'amour qu'on prépare avec joie depuis 2 ans et aussi une célébration de la victoire du mariage pour tous. On se rappelle les débats, les propos nauséabonds en 2013 et on se dit que notre mariage est aussi un acte politique. Et puis Johan nous dit ce que je retiens de mon mariage, c'est ce moment où je me suis retrouvé solennellement face à mes amis et proches pour leur dire c'est cette femme que j'aime et avec qui je me lie. C'est peut-être un peu naïf, mais c'est ce moment qui a marqué une étape dans ma vie d'homme. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué encore avec vous, Aude, mais il y a ces moments intenses quand même pendant la cérémonie, ces discours qui font pleurer, qui arrachent des larmes, ces vérités qu'on peut se dire. Ça reste quand même un moment émouvant, le mariage.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est l'institution du mariage en elle-même qui aujourd'hui me paraît moi un peu dépassée, mais tout ce qui va être le symbole du mariage, l'amour, la volonté de s'unir à quelqu'un, de lui promettre de l'aimer toujours, ça reste quand même encore universel et c'est ce qui se passe dans ces cérémonies-là. Nous, on a choisi de faire une cérémonie laïque parce qu'on n'est pas croyants tous les deux. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions parce que on le sait qu'on s'aime, on sait qu'on veut vivre toute notre vie ensemble, mais l'affirmer, le réaffirmer devant nos amis qui sont donc nos témoins au sens large, c'est un moment très, très fort pour tous les deux, ouais.
Vous vous souvenez justement d'un moment comme ça puissant que vous n'oublierez jamais ?
Mon arrivée en fait. Le marié est arrivé en premier et je suis ensuite descendue des escaliers pour aller vers lui et j'ai vu il était en larmes face à moi et je pense que j'ai pas pris conscience qu'il m'aimait vraiment à ce moment-là, mais ça a réaffirmé quelque chose pour moi de me dire. À 11 ans après s'être rencontrés, on est encore capable de ressentir des émotions aussi fortes, un amour aussi fort l'un envers l'autre, quoi.
C'est vrai, Florence Maillot-Chaud, on parle évidemment des liens sacrés du mariage, mais il y a aussi une dimension presque sacrée dans ce témoignage que vient de nous livrer Aude, dans cette cérémonie qui est devenue une forme de rituel finalement.
Ça a toujours été un ensemble de rituels, le mariage. Mais les rituels ont changé de sens. Et là, ce qui compte, c'est la fonction expressive, en fait, du mariage, puisque là, les couples existent. Donc, en fait, là, ils sont simplement réaffirmés aux yeux du couple, déjà, d'une part, parce que c'est vrai que prendre cette décision, alors qu'on peut continuer à vivre ensemble, c'est quand même un moment important, une validation, une revalidation de son amour, et surtout une validation à travers les autres. C'est-à-dire que se dire qu'on s'aime dans le huis clos, et se dire qu'on s'aime face à ses parents, sa famille, ses amis, ça n'a pas la même force.
C'est pas pour ça que une centaine en plus nombreux, voilà. Vous l'avez dit.
c'est pas pour ça que l'histoire va changer, mais en tout cas c'est vrai que ça a une fonction expressive très importante et qui se manifeste aussi dans tout le choix de ce que Aude appelait tout à l'heure les détails, c'est-à-dire que du coup aussi on cherche à exprimer la singularité de son couple et donc en l'exprimant par une décoration spécifique, par des habits spécifiques, par une ambiance spécifique. Voilà.
Aude, est-ce que ça vous a rendu du coup plus amoureuse encore de votre mari?
Si c'était possible. Non, je pense surtout que je me suis vraiment sentie plus liée à lui après la cérémonie, en fait, le lendemain. Pas seulement parce que j'ai cet anneau à mon doigt que je n'avais pas avant, mais aussi parce qu'il y a un espèce de lien qui s'est ajouter à ceux qui existaient déjà, alors que, comme je le disais au départ, pour moi, le mariage n'avait pas vraiment de sens. Et j'ai été assez surprise, d'ailleurs, de ce sentiment-là. Mais force est de constater que, oui, le mariage a ajouté quelque chose dans notre relation.
Eh bien, merci, Aude, pour votre témoignage émouvant et en même temps très clair. Merci à vous. Et puis, tous nos voeux de bonheur à vous deux, alors.
Merci.
Se marier a-t-il encore un sens? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les débats de midi. Vous êtes bien sur France Inter. C'est enfin l'été. Et donc, tous nos voeux de bonheur aussi à celles et ceux qui se marient ce week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. C'est le titre Parcells, le nom de ce groupe qui nous vient d'Australie. Il est midi et 52 minutes.
Thomas Chauvineau, le débat de midi.
On s'intéresse au mariage aujourd'hui dans le débat de midi avec Sybille Golac qui est chercheuse au CNRS, Florence Maillochon qui est sociologue et Jérémy Houssier qui est professeur de droit. Et ces témoignages qui continuent de nous arriver sur franceinter.fr, Guillemette nous dit « Marié jeune pour ma génération à 24 ans, le mariage était la seule solution pour que mon couple continue d'exister. Mon mari n'avait plus de visa et l'idée d'être séparé n'était pas envisageable. Alors après un an de relation, on s'est marié. Nous étions jeunes et fauchés. Nous avons rassemblé 100 amis. » Pour fêter ça sur une péniche, tout le monde a rapporté quelque chose à boire ou à manger. C'était l'une des meilleures soirées qu'on ait jamais faites de la vie de tous. 11 ans plus tard, c'est toujours une histoire qui roule. L'institution du mariage a encore du sens pour certains d'entre nous. Et puis Aurélie nous dit « Je souhaite partager mon expérience, bien que la majorité des personnes aient le choix de se marier. Ça n'a pas été notre cas. Nous avons dû nous marier pour être mères légalement, toutes les deux, de notre fils. » Et c'est vrai que ça renvoie à la question aujourd'hui de l'adoption et du mariage. Mariage pour tous, Jérémy Houssier.
Oui, tout à fait. À l'heure actuelle, les personnes de même sexe qui souhaitent adopter n'ont pas d'autre choix, qui souhaitent plutôt avoir un enfant, excusez-moi, n'ont pas d'autre choix que de se marier. Pourquoi ? Parce que l'adoption n'est accessible qu'aux personnes mariées. Et donc effectivement, on le voit, et même avec le témoignage de cette personne, Guillemette, qui indiquait que si elle s'est mariée, c'était pour obtenir, en fait, pour faciliter l'obtention d'un titre de séjour à son mari, on voit que derrière la fête, derrière le bonheur de se marier, il y a aussi des explications juridiques qui peuvent être la facilitation de l'obtention d'un titre de séjour ou même de la nationalité ou la possibilité d'adopter un enfant. Et il est vrai que l'on observe que le mariage a bien ce volet institutionnel de rattacher un couple à des enfants, puisque pour le moment, pour pouvoir adopter, il faut être marié. Alors il faut le savoir qu'à l'heure actuelle, devant le Parlement, une loi est en débat qui prévoit justement de mettre un terme à cette exigence légale en permettant aux couples de concubins, aux couples de personnes pacsées, de pouvoir adopter sans recourir donc au mariage. Et l'on voit encore une fois, pour retourner à ce que nous disions au début, qu'il y a un rapprochement donc des différentes formes de couples, notamment sur le plan des enfants, puisqu'il y a un mouvement général du droit qui consiste à détacher la question des enfants de la forme de couple, et donc une désinstitutionnalisation sous cet angle du mariage qui n'est plus le seul mode d'accès à une famille composée d'enfants et d'un mari, d'une femme ou de deux femmes ou de deux maris.
Et sur franceinter.fr toujours, Jeanne nous dit « Lorsque je me suis mariée il y a plus de 30 ans, j'ai fait le choix de ne pas porter le nom de mon mari. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à faire respecter ce choix. Ma carte d'identité, ma carte d'électrice, mon compte bancaire mentionnent le nom quand ce n'est pas le prénom de mon mari. Si les règles du mariage ont évolué, dans la pratique, il reste difficile de ne pas se sentir effacé », nous dit Jeanne. Sybille Golac, une réaction au propos de Jeanne ?
Oui, alors ce qui est intéressant sur cette histoire du nom de famille, c'est que en réalité dans le droit, alors peut-être que monsieur aussi me corrigera, mais cette inégalité, elle n'est pas inscrite. Même théoriquement, un homme peut prendre comme nom d'usage, puisque notre nom reste notre patronyme de naissance, mais peut prendre comme nom d'usage le nom de sa conjointe, mais ce qui se fait absolument pas. Et en fait, il y a tout un tas d'institutions, en particulier les banques, qui sont là-dessus les plus rétive et
donc et un homme qui se marie peut prendre le nom de sa femme
comme nom d'usage, oui. Et en fait, c'est absolument pas pratiqué, et les institutions, offrent des résistances au guichet aux femmes qui veulent notamment garder leur nom de jeune fille, et du coup, ça produit une inégalité au moment des divorces. C'est un truc qui reste une inégalité, c'est que au moment du divorce, on décide, les époux se mettent ou non d'accord sur le fait que l'épouse peut garder son nom de femme mariée, et notamment certaines le souhaitent, soit pour avoir toujours le même nom que leurs enfants, soit pour des raisons professionnelles, et parfois l'ex-mari tente de poser son veto, et les hommes sont pas confrontés, eux, à ces situations. Donc c'est une des inégalités qu'on trouve dans le mariage, mais qui, à ma connaissance, est davantage liée en fait aux pratiques que aux textes de loi.
Ça reste un engagement qui est très fort. Alors on a cité ce fameux article 212 qui parle de la fidélité, mais il ne parle pas que de la fidélité. L'article 212 dit « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». Et donc il y a dans le mariage, Florence Maillochon, cette idée de vieillir ensemble, de voir sur le temps long également.
Oui, je pense que c'est encore une valeur attachée au mariage, même si la plupart des gens qui se marient ne sont pas naïfs et savent bien que c'est difficile. Mais justement, c'est un pari en fait qu'ils veulent faire sur l'avenir.
Sybille Golac, pardon.
Oui, le mariage, c'est vrai que c'est un enjeu dans le long terme, et au moment de la fin de l'union. Cette fin de l'union, elle peut avoir lieu de deux façons. Il y a le divorce, Et comme je l'expliquais déjà, de ce point de vue-là, le mariage est quand même en partie protecteur. Et ça, donc je donne des chiffres, hein, qui ont été produits par des économistes, Nicolas Frémont et Marion Le Turc, qui montrent que les inégalités de patrimoine entre femmes et hommes, elles sont passées de 9% à 16% en moins de 20 ans, en lien avec l'individualisation du patrimoine. L'effet que les gens se marient moins, et quand ils se marient plus, ils font un contrat en séparation de biens. Mais ces enjeux, c'est aussi au moment du veuvage, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, les veufs et les veuves, c'est davantage des veuves, en fait. Le mariage permet à la veuve ou au veuve de bénéficier alors souvent c'est sa part de la maison, en fait, de la maison commune de son conjoint. Donc c'est protecteur. C'est aussi protecteur du point de vue des retraites, puisque notamment les pensions de retraite des femmes, hein, elles sont leur pension de droit propre de 45% inférieure à celle des hommes, et le système de la pension de réversion qui permet à une veuve de toucher une partie de la pension de retraite de son conjoint défunt, ben ça a permis à beaucoup de femmes d'échapper à la grande pauvreté. Et aujourd'hui, comme les gens se marient moins en moins, là on va avoir des générations de femmes qui ont vécu en couple, qui du coup ont fait ces choix de carrière, qui font qu'elles ont eu des revenus moins importants, des droits à la retraite moins importants, qui vont arriver à l'âge de la retraite et qui bénéficient de aucun dispositif. Donc un des enjeux, hein, aujourd'hui pour le droit, on en a déjà parlé d'un point de vue positif, hein, c'est vrai que le droit essaye d'aligner en fait le droit des couples mariés et des couples non mariés, mais il y a encore de nombreux domaines dans lesquels c'est pas le cas, et notamment des mécanismes.
Hein, il y a le droit, en effet, mais il y a aussi l'amour. Isabelle nous dit, mes parents se sont mariés à l'âge de 65 ans. Petit mariage très simple et en même temps rempli de symboles après avoir passé une grosse partie de leur vie ensemble, après avoir partagé des souffrances et des réjouissances, passé par étapes, eu 3 enfants construits ensemble. Pour moi, le mariage a plus de sens comme ça qu'en faisant l'inverse, n'avoir rien vécu et parier sur l'avenir. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été en direct aujourd'hui. Le débat de midi, c'est fini, mais on se retrouve demain vendredi 13, on se demandera pourquoi on aime croire encore aux superstitions.